Si vous avez lu, je suppose que vous l'avez fait, le texte qui présentait en ligne la problématique de la formation, vous y aurez vu ou lu donc un certain nombre de considérations, on va dire contextuelles. Pour quelles raisons est-il intéressant de travailler sur l'évaluation actuellement? Donc je ne vais pas les reprendre puisqu'elles sont dans ce texte. Je vais juste les rappeler très brièvement. D'abord, vous n'ignorez pas évidemment qu'il y a eu, je ne sais pas si elle existe encore, mais il y a eu dans les mois passés une certaine ébullition médiatique, hélas, presque, mais aussi sur le plan des propositions qui ont été faites, à la fois par la conférence sur l'évaluation dont parlait Colette tout à l'heure, par le Conseil supérieur des programmes récemment, ou il y a un peu plus longtemps, il y a eu les circulaires de rentrée sur l'évaluation positive, etc. Et la séquence se clôt peut-être, je ne sais pas, par le fait que la ministre oppose une fin de non-recevoir à l'une des propositions extrêmement audacieuses de la conférence sur l'évaluation, qui était de ne plus noter en école primaire. Il paraît qu'il y a, j'ai lu hein, quelque part, qu'il y a 30% des écoles qui utilisent encore, d'école primaire, qui utilisent encore les notes. Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffre personnel, mais je l'ai lu. La proposition était d'aller jusqu'à ne plus noter en sixième. Et donc, apparemment, ça risquait d'ébranler les piliers de la République, de la laïcité, de je ne sais quoi d'autre. Donc, ça a été un non, avant même que la proposition ait d'ailleurs été formulée. On savait que ça serait non. Pour quelle raison cette ébullition médiatique et professionnelle? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que l'évaluation, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. On a pensé pendant très très longtemps que évaluer était quelque chose de neutre. C'est la métaphore du thermomètre. Hein, il fait froid, ben, le thermomètre descend, il fait chaud, le thermomètre monte. Et en fait, on s'aperçoit, les sociologues de l'éducation sont extrêmement clairs là-dessus, que dans une école qui aggrave les inégalités sociales globalement, la nôtre, les processus d'évaluation jouent un rôle aggravant particulier. C'est-à-dire que loin de simplement enregistrer l'objectivité d'un apprentissage, le thermomètre, oui, le thermomètre de l'évaluation fait descendre la température. Donc il y a un vrai problème c'est l'autre contexte large, celui-là, celui des comparaisons internationales, qui est mis en valeur par un certain nombre de comparaisons internationales. Évidemment, elles sont discutables, mais toute évaluation, on le verra, est discutable. Donc il y a une vraie crise. On peut penser que, comme on dit souvent, c'est une crise de croissance. C'est-à-dire qu'il faut passer par une crise pour que les choses changent. Et on va essayer d'analyser dans cette formation les tenants et les aboutissants de cette crise, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et puis surtout, on ne va pas se mettre le nez sur ce qui ne fonctionne pas. On va se confronter à des alternatives et on va essayer de comprendre en quoi ces alternatives nous enseigne quelque chose de fondamental par rapport à l'évaluation. On n'est pas, vous n'allez pas vous trouver, enfin vous allez vous trouver confronté à des pratiques d'évaluation, mais jamais ces pratiques, je pense, j'espère qu'on va tenir cette position, jamais ces pratiques qui vous seront présentées ne seront présentées comme des modèles à imiter. Vous savez, les fameuses formations par les bonnes pratiques. Hein. On montre les bonnes pratiques aux gens. Alors on n'est pas du tout, du tout, du tout sur cette longueur d'onde. On en pense beaucoup de mal de ce type de formation par les bonnes pratiques. Par contre, les pratiques sont intéressantes Parce que, alors pourquoi on parle des bonnes pratiques? Parce que souvent on nous dit on veut du concret, on veut du concret, oui, les bonnes les pratiques alternatives, on veut du concret parce qu'on en a marre des discours théoriques. Je veux bien comprendre qu'on en ait marre des discours théoriques, mais entre Charybde et Scylla, j'ai envie de choisir ni l'un ni l'autre et d'essayer de vous proposer une autre voie. Donc ce sera ni les discours théoriques, mais il va y avoir beaucoup de discours quand même, ni les discours regardez comme ce que je fais est beau, mais il va y avoir des gens qui vont vous présenter ce qu'ils vont faire. Alors, on va essayer tout de suite de se donner une définition de l'évaluation. C'est un peu casse-gueule, hein, parce que comme ça, je vous ai dit pas de théorie, mais là, on va être en plein dedans. On va quand même essayer, voilà. Et cette théorie, on va la construire un tout petit peu ensemble dans cette présentation de la formation. Et on va revenir régulièrement à ce modèle de départ au fur et à mesure des plages de la formation en essayant de l'ajuster, de voir s'il est pertinent, de voir s'il faut changer des choses ou de voir si effectivement il est explicatif et il fonctionne. Donc, je prends un risque, c'est de vous dire, l'évaluation, c'est ça. Ben évidemment, c'est un peu prétentieux, mais enfin, on va quand même essayer. Hein. Voilà, première approche, et en même temps, ça va nous donner un plan de travail pour ces 3 jours. On peut définir, au départ, l'évaluation comme nécessitant 2 choses conjointes sans lesquelles il ne peut pas y avoir évaluation. D'abord, il faut une performance. J'entends par performance, il faut remonter au sens anglais, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une performance en termes de compétition, de record, etc. To perform, c'est réaliser, et réaliser avec un certain... Ce n'est pas faire spontanément, c'est réaliser, mais avec un certain effort, avec un certain travail, avec un certain entraînement. Et puis, c'est aussi présenter. Dans les spectacles, hein, la connotation du spectacle. Donc on a besoin d'une performance parce que cette performance, je ne peux pas évaluer si je ne l'ai pas. Il n'y a pas d'objet, s'il n'y a rien à évaluer, je ne vais pas évaluer. Il faut que ce soit évidemment quelque chose d'observable, sinon je ne peux pas évaluer non plus. Je ne peux pas évaluer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, par exemple, j'en sais rien. Personne ne le sait, même avec l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, on voit des taches roses, vertes, jaunes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans les taches? Voilà. Donc, on est obligé, je crois que c'est une image de Mérieux, de s'arrêter à la frontière de la boîte crânienne de l'apprenant. On ne peut pas aller plus loin. Donc, il faut quand même une performance observable, parce que ça, c'est visible, c'est audible. Si j'évalue un plat, c'est goûtable. Si j'évalue la qualité d'un tissu, c'est tactile. Si j'évalue un parfum, c'est olfactif. Il faut faire fonctionner mes sens. Évidemment, celui qui produit cette performance, c'est l'évalué. Il faut aussi un verdict. Et celui qui produit le verdict, c'est évidemment un évaluateur. Alors, pourquoi verdict ? On pense tout de suite à la justice, mais franchement, je pense qu'on aurait intérêt à regarder comment fonctionne la justice quand on parle de fonction, quand on parle de l'évaluation. On aurait intérêt à regarder les principes issus, je vous le rappelle, de Montesquieu en particulier, du siècle des Lumières. Les principes de séparation des pouvoirs, par exemple. Le pouvoir judiciaire n'est pas en même temps le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif. Or, dans l'acte d'évaluation, très souvent, les 3 pouvoirs sont mélangés, sont confondus. On aurait intérêt donc à regarder la justice et à regarder l'étymologie, parce que veut dire verdict ? Verdict, c'est vere dictum, dire le vrai. Donc, l'évaluation a quelque chose à voir avec dire le vrai. On va voir que c'est problématique de dire ce vrai-là. On a un évalué, un évaluateur, ben forcément, il y a une relation entre les deux. Et évidemment, cette relation, elle est intéressante et on va regarder comment elle fonctionne. Alors, on va regarder comment elle fonctionne d'abord à travers quelques-uns des autres dessins que vous avez eus sur la table d'entrée. Bon, voilà, vous voyez, il y a un évaluateur et un évalué. Hein, c'est... On est d'accord ? Ils sont bien là, les deux. Hein, la relation, elle y est aussi. Hein, alors, on peut dire c'est de la caricature, tout ce qu'on veut. Ok, admettons l'objection pour le moment. Voilà une autre relation de l'évaluation. Hein, c'est le constat qu'on fait depuis un siècle, depuis le début de des études de sismologie, 1920 et des poussières, que la note est hautement problématique et que il y a énormément d'aléatoires, on va dire, dans la notation qu'on assimile souvent à l'évaluation, à travers un tas de biais. Et cet aléatoire qui a été mis en lumière donc, il y a quasiment 100 ans, il continue imperturbablement à fonctionner, comme si de rien n'était, alors qu'on sait très bien qu'il existe. On sait moins comment le réduire, mais on sait qu'il existe. Alors forcément, ça produit des effets. Si vous êtes exposé à des situations aléatoires, vous en éprouvez une certaine angoisse, effet délétère. Ou bien, un certain bonheur, une certaine fierté. Hein, avoir une bonne note, un bon point, une image, un diplôme, être reçu à l'école normale supérieure en ces lieux, ça rend fier de soi, évidemment. Celui qui n'est pas reçu, hein, on n'a pas été reçu à la conférence nationale sur l'évaluation au jury, donc voilà, on s'est senti un petit peu comme ça, il y a l'aspect stigmatisation, hein. On est toujours dans cette relation hein, entre l'évalué et l'évalué ou dans ses effets. Excellent, bon, médiocre. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit glissement dans des choses comme ça ? Qu'est-ce qui est évalué ? Est-ce que c'est la performance ou est-ce que c'est l'évalué ? Parce que j'ai peut-être oublié de dire que si la performance est produite par l'évalué, ça n'est pas l'évalué qui est évalué. Il faut regarder tout simplement le référentiel de compétences en vigueur actuellement pour s'apercevoir qu'on n'évalue pas les élèves. Ça n'est écrit nulle part. On évalue les acquisitions et les apprentissages des élèves. J'ai été horrifié à la conférence sur l'évaluation de voir qu'elle était intitulée « Conférence nationale sur l'évaluation des élèves » en contradiction complète avec le référentiel que le même ministère est censé faire appliquer aux enseignants, au personnel de l'éducation nationale. Excellent, qu'est-ce qui est excellent ? Si c'est la copie, très bien. Si c'est l'élève, ça me pose problème. Parce que justement, ça va produire les réactions qu'on vient de voir de grande fierté ou au contraire de stigmatisation. Autre exemple de relation. 19 sur 20, si vous ne voyez pas la petite, hein. J'étais certaine que vous feriez quelque chose d'excellent, et du coup, j'ai été un peu déçue. On voit bien qu'on joue sur l'affectif, là. Hein? On n'évalue pas la copie quand on dit ça. On évalue les sentiments de l'évaluateur. Enfin, elle exprime un amour déçu. C'est pas ça l'évaluation, c'est pas possible. Mais qui n'a pas prononcé cette parole, un jour, moi compris. Ah, je suis très déçu. Tu m'as déçu, peut-être même, c'est pire. Je suis très déçu, ça peut... Allez, mais tu m'as déçu, ça c'est le pire. Évidemment, cet enjeu personnel, affectif, en termes de confiance de soi, d'image de soi, etc., ne peut pas ne pas produire des effets. Alors voilà, c'est la télévision qui est en train d'interviewer, désolé, je m'aperçois qu'elle est extrêmement mauvaise, ma caricature, donc elle est en train d'interviewer un gamin et son prof de maths, apparemment, et le gamin déclare à la télévision, après 12 heures d'âpres négociations, j'ai obtenu du prof de maths que ma note soit remise à la hausse d'un demi-point. Parce que, du coup, comme il y a un tel enjeu personnel, l'évaluation devient une affaire de marchand de tapis, où on va négocier, on va essayer d'obtenir un petit peu plus que le verdict prononcé par l'enseignant. Voire même, on va plus loin, c'est que, si j'ai pas mon bonus, tu peux toujours te brosser pour que je travaille. Je vais quand même pas donner des réponses à vos questions sans avoir négocié ER, d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai écrit, je dédouane le moindre bonus. Mais voilà, là aussi, c'est significatif de la manière dont on évalue. On va regarder le ER qui va nous saboter la saveur de l'image. Négociation encore. Je crois qu'elle est... Je ne sais plus, c'est pas dans les cahiers pédagogiques aussi que j'avais trouvé. Négociation et revendication, plutôt que négociation. Et évidemment, ça change. Il y a toujours revendication, mais c'est plus les mêmes personnes qui sont en ligne, au front. Et puis évidemment, ça c'est connu, la tricherie, puisqu'il faut absolument s'en tirer, I'm not cheating, je ne triche pas. Ce sont des tatouages, et le fait qu'ils ressemblent vraiment de très près aux réponses du test ne peut être que purement une coïncidence. Si seulement il n'y avait que les élèves, on pourrait se dire, nous on est à l'abri. Mais en même temps, on sent bien ici que l'enseignante qui cherche à aider ses élèves, quelque part, c'est aussi sa propre évaluation qui est en jeu. Elle veut 90% parce qu'il faut qu'elle montre qu'elle est une bonne prof. Donc elle va faire tout ce qu'il faut, et même peut-être un peu de ce qu'il ne faudrait pas, pour que ses élèves obtiennent le score de 90%. Ça, c'est l'évaluation bienveillante. Bravo. Parce qu'on en est réduit là. Pour faire progresser les gamins. On en est réduit aussi aux smileys. Ça aussi, c'est de l'affectivité. Qu'est-ce qu'on en a à cirer que l'enseignant ou l'enseignante y soit content de la performance des élèves ou qu'ils ne soient pas contents. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à cirer ? Qui c'est le smiley ? Qui est représenté par le smiley ? Pourquoi est-ce que la performance réalisée par un élève est évaluée en termes du plaisir qu'il va fournir à quelqu'un ? Il y a une certaine ambiguïté là. Il faut se méfier de toutes ces modes évaluatrice, il faut essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça paraît des bonnes idées, c'est encourageant, etc., etc., mais c'est super ambigu. Je peux me transformer moi aussi en smiley, carrément, je ne suis plus qu'un smiley. Et la bienveillance, des fois, il faut quand même se demander qui la manifeste. Je ne sais pas si... Voilà, dans l'idée de bienveillance, avec toutes ces connotations de culpabilité, etc., il n'y a pas à s'en méfier un peu, quoi. Regardons-la de manière critique. Évidemment, dans ce magma, les profs, ils se lassent. Donc, ils corrigent, mais c'est un pinsomme, la correction. Je ne sais pas si j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je vois quelques personnes qui opinent du bonnet. En tout cas, je peux vous garantir que pour moi, c'était un pinsomme, à tel point que, ayant le bonheur de pouvoir dormir très peu, je m'arrangeais pour corriger sur une nuit complète, juste au moment, et donc j'étais pris par le temps, et forcément je devais terminer pour m'en débarrasser. J'exagère, je n'ai pas tout le temps fait ça, mais parfois ça me pesait vraiment énormément, et je crois savoir qu'ici il y a des gens à qui ça pèse énormément, parce que tout ça n'a pas de sens, au fond. Ce n'est pas d'évaluer les élèves qui est pesant, c'est de faire un travail dont le sens est plus que discutable. D'autant plus que soi-même, on le fait parce que, au-dessus, on est exactement soumis à la même chose qu'aux élèves, que les élèves. C'est un prof qui est assis au fond. Hein. Et ça, c'est les critères qui permettent de l'évaluer. En voilà un autre qui... Hein, qui évalue maintenant un enseignant. Hein. Surtout, ne faites pas attention à moi. Et puis, il y a plein d'effets bizarres. Ça, c'est emprunté à André Antibi, la constante macabre. Vous connaissez peut-être la constante macabre pour une bonne part d'entre vous. C'est qu'il ne faut pas avoir une trop bonne moyenne quand on est prof. Si on a une trop bonne moyenne, ça se sait et on se fait une réputation d'être laxiste, de ne pas être assez sévère. Donc il faut essayer de maintenir, comme à l'armée, vous savez, où on a droit à un petit pourcentage de pertes à l'entraînement, il faut maintenir un pourcentage de pertes à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une trop bonne moyenne, parce que sinon on se déconsidère auprès du chef d'établissement, des collègues, des parents, etc., etc. Et puis évidemment, derrière ça, se pointe la question du palmarès. On ne connaît pas encore trop le palmarès des enseignants. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas encore trop arrivé chez nous, mais on connaît le palmarès des établissements, les questions de réputation. Or, ces questions de réputation, elles sont souvent établies sur la base de ce que dit la petite instite là, sur la droite. Hein. Ben, ça l'a bien aidé, l'établissement, que mes deux meilleurs élèves aient fait leur entrée dans cette école. C'est-à-dire qu'on draine les meilleurs et puis, voilà, la richesse va aux plus riches. Hein. Et c'est comme ça que se forgent les réputations d'infamie ou au contraire de gloire. On voit bien donc que, pour en revenir à notre relation de départ, c'est une relation... C'est un vrai magma, quoi. C'est un labyrinthe, et qu'il faut essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Vous connaissez Marcel Mauss, peut-être, certains d'entre vous en ont entendu parler, anthropologue du début du XXe siècle, enfin, plus que le début, et qui s'est rendu célèbre, entre autres, travaillant sur ce qui structure les sociétés, on ne peut pas dire primitives, mais les sociétés premières, on va dire. Hein. Et en comparant le fonctionnement de ces sociétés, il relève comme structure constitutive de la société l'échange, c'est-à-dire le don, qui est forcément suivi d'un contre-don. Ce don... assure la circulation des biens. Lévi-Strauss dirait la circulation des femmes, puisque on échangeait les femmes. Du moins, c'est la position de Lévi-Strauss. N'allez pas chercher de l'antiféminisme là-dedans, hein. Mais les questions de dot, etc. On est bien dans du commerce. Hein. Et justement, ça pose plein de questions parce que le don et le contre-don sont constitutifs de ces sociétés, mais il prend des formes multiples. Par exemple, on ne peut pas ne pas donner à un étranger, dans certaines, mais parfois, non. On ne peut pas refuser un don, mais parfois on peut le refuser. La valeur du don est strictement étalonnée. De même, la valeur du contre-don, qui doit être proportionnelle, mais ça dépend des sociétés. Peu importe les formes concrètes, empiriques, que prennent le don et le contre-don, ce qui importe, c'est à travers cet échange de biens ou d'êtres humains, à l'époque, eh bien, on crée quelque chose qui est de l'ordre d'un lien social. Et donc, je vous donne, c'est un extrait, bon, j'ai essayé de trouver un extrait de Mauss, mais... Finalement, je me suis dit que Wikipédia, ça suffirait bien, parce que je ne trouvais pas de choses assez ramassées. Quoi. Voilà. Donc je vous laisse lire, ce n'est pas la peine que je le lise. Hein. Mais ce qui est important, que j'ai souligné à la fin, c'est que c'est constitutif du lien social. Or, entre le don de la copie et le contre-don de la note, c'est exactement ça qui fonctionne, c'est-à-dire une relation archaïque, non pas au sens de « où il faudrait l'oublier », parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais archaïque au sens de fondamental. C'est ça qui s'exprime, c'est ce type d'échange en tout cas, c'est un échange parmi d'autres, on peut échanger des figurines Panini ou voilà, des images, tout ce qu'on veut, mais on s'échange aussi entre l'enseignant et l'élève, un don qui est la copie, le travail, le devoir, et un contre-don qui est la note, l'appréciation, le jugement, tout ce qu'on veut. Et si il n'y a pas de contre-don, on se trouve un peu floué. Mais à quoi ça a servi qu'on te donne ça ou qu'on fasse ça, puisque tu ne nous donnes pas de contrepartie? Et on voit que dans cette « monsieur s'est noté » ou « madame s'est noté » que vous avez immanquablement eu, dont vous avez fait immanquablement expérience en distribuant une simple feuille de travail à vos élèves, il y a ça qui se joue. C'est pas simplement leur c'est leur utilitarisme, évidemment. C'est quand même plus profond aussi. Hein. Il y a cette attente d'un échange. Donc, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le repousser du pied en disant « ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister » parce que ça existera toujours. Par contre, cet échange qui est créateur d'un lien social, le problème, c'est que c'est un échange duel. On voit entre parenthèses, quand on parle de lien social, qu'on n'est plus du tout dans l'affectif et dans le relationnel qu'on a vu dans toutes les caricatures que je vous ai montrées, dans tous les dessins que je vous ai montrés. C'est un contresens que de parler d'évaluation bienveillante et de penser que la bienveillance va faire évoluer l'évaluation, puisqu'il ne s'agit pas de bienveillance, il s'agit d'un contrat social au sens le plus fort du terme, au sens par exemple de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. C'est un contrat social entre deux instances, l'évalué et l'évaluateur, et non pas deux personnes. Bien sûr que ces instances sont occupées par des personnes. Des personnes. L'instance, elle n'existe pas, toute seule. Mais c'est plus profond que ça. Donc, le problème, c'est un, que ce n'est pas un problème psychologique, affectif, relationnel, ou je ne sais quoi, c'est un problème social. Et si c'est un problème social, deux, nouveau contresens, c'est de le réduire à une relation duelle. C'est parce que l'évaluation prend systématiquement des formes duelles qu'on n'arrive pas à la faire évoluer. On est un petit peu comme, vous savez, avant Galilée, avant Copernic, les astronomes, ils n'étaient pas idiots. C'était des bons mathématiciens. Ils le mesuraient, le mouvement des planètes. Et ils se rendaient compte que ça ne passait pas. On ne pouvait pas l'expliquer avec le modèle ptoléméen. Ce n'était pas possible. Mais on ne pouvait pas penser en dehors du modèle ptoléméen. Et donc, il y a des rayonnages entiers, m'a-t-on dit, mais je veux bien le croire, de traités qui, en fait, posaient des patchs, vous savez, des petites rustines. On s'était aperçu d'une incohérence, donc on allait produire une théorie qui expliquait l'incohérence pour essayer de la réintégrer dans le modèle ptoléméen. Pardon. Eh bien, voilà, les smileys, les bienveillances, les choses comme ça, pour moi, on frise la rustine. Oh, je dirais même que c'est des rustines. Il faut qu'on fasse comme Galilée ou comme Copernic, c'est-à-dire qu'on prenne du recul et qu'on se dise non, peut-être que la Terre n'est pas le centre du monde et peut-être qu'il faut qu'on regarde ce qu'il y a autour et quelle est la relation entre la Terre et le reste. Alors c'est ce qu'on va faire pour essayer de bâtir cette première définition de l'évaluation qui va nous servir de carte. Hein. Il y a deux places dans le schéma qui ne sont pas occupées. qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La première chose, c'est que la performance observable, comme je l'ai dit tout à l'heure, est significative d'un processus mental, d'opérations mentales qui, elles, ne sont pas observables, je l'ai déjà dit, et cette relation est assez problématique, parce que qu'est-ce qui me prouve que parce que l'élève a accompli telle performance, il a réellement développé en lui, on va dire, les savoirs, les compétences, c'est-à-dire les processus mentaux, qui sont significatifs de ce que je crois être dans cette performance. Pas grand-chose, puisque je ne peux pas accéder à ce qu'il pense. Donc je fais l'hypothèse que la performance reflète un apprentissage, et ça, c'est le premier point qui constitue cette carte plus large de l'évaluation. Le reflet est problématique, hypothétique, on va dire. Je peux faire que des hypothèses sur ce que l'élève pense ou sur les schèmes mentaux, si on reprend cette expression, qu'il active quand il réalise telle chose. Il nous faut aussi une autre position, et ça va être le jugement. Je vous ai dit, hein, on est dans la justice. Hein. Il nous faut un jugement évaluatif. C'est-à-dire que cette performance, moi, évaluateur, je vais porter sur elle un jugement évaluatif. Ce jugement évaluatif, il est évidemment lié à ce que je peux voir dans cette performance. Elle me donne des indices. Les indices, eux, ils sont observables. Encore faut-il que je les analyse, c'est-à-dire que je développe une démarche intellectuelle d'analyse de ces indices, c'est-à-dire que j'accomplisse un acte interprétatif. La relation entre la performance et le jugement, c'est un acte interprétatif. C'est pas le thermomètre. Je suis pas un thermomètre qui enregistre le nombre de bonnes réponses. Si, dans les QCM. Là, je peux donner le QCM à corriger à un ordinateur. Pas de problème, l'ordinateur jouera le rôle du thermomètre. Mais le problème, c'est le QCM. C'est pas la relation entre le QCM et... Le QCM, lui, est-il significatif d'un quelconque processus intéressant qui apparaisse dans sa production? Et là, on tombe sur la réflexion sur la nature des tâches, qui est complètement dans la question de l'évaluation. L'analyse est donc, elle aussi, problématique. Il faut essayer d'éliminer les biais. Hein. Le jugement, il est porté par un agent. Vous êtes des agents, nous sommes des agents. Des agents d'une institution. L'institution, pour la plupart d'entre nous, c'est l'éducation nationale. Lorsque je porte un jugement, ça n'est pas en tant qu'Alain Pastor ou Pierre Durand que je porte le jugement, même si c'est effectivement Pierre Durand ou Alain Pastor qui porte le jugement, je le porte au nom d'une institution, parce que cette institution m'a habilité, j'ai été institué, instituteur. J'ai été institué par l'institution pour porter ce jugement. Et cette institution, ce n'est pas une simple estampille sur ma fesse gauche disant que je suis certifié, agrégé, professeur des écoles ou quoi que ce soit. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est que l'institution m'outille, moi évaluateur, pour évaluer, c'est-à-dire qu'elle me donne un tas d'éléments pour me créer, pas me créer, mais pour utiliser, qui sont des échelles de valeur. Elle me donne les critères, l'institution, ou les référentiels. Par exemple, elle me donne quelque chose qui s'appelle le cadre européen de compétences, CECRL. Ben, c'est un ensemble d'échelles de valeur qui me permet de situer cette performance sur laquelle j'ai porté un jugement. Vous voyez, tous ces mouvements qui vont nous conduire à boucler le carré, tous ces mouvements, toutes ces différentes positions sont en général mélangées. La distinction n'est pas faite, ni évidemment par les évalués, ni même très souvent par les évaluateurs. Et donc, avant d'essayer de changer la note, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Donc, je vais attribuer en tant qu'évaluateur une valeur, ce qui n'est pas la même chose que le jugement. Le jugement, il est cognitif. La valeur, elle est sociale. C'est par rapport à un ensemble de normes, à des attentes qui sont écrites quelque part. La copie d'élève, elle ne fait pas partie des attentes. Je ne peux poser sur elle qu'un jugement personnalisé lié à cette copie-là. Mais le référentiel qui me permet de construire ce jugement, lui, il est codifié, il est écrit, il suffit de le lire. Est-ce que les enseignants lisent les standards selon lesquels ils sont censés évaluer? C'est une autre question. Je vous laisse y répondre dans votre fort intérieur. Et enfin, il y a une dernière relation importante, extrêmement importante, qu'on sous-estime ou qu'on confond avec le verdict, c'est qu'il faut bien que je renvoie à l'évalué un message par lequel je lui communique mon verdict, un message évaluatif. Ce message évaluatif, ça peut être une note, ça peut être le livret personnel de compétences, ça peut être le papier officiel du rectorat indiquant que je suis reçu au baccalauréat de telle académie, enfin, baccalauréat dans telle académie, pas de telle académie, etc., etc. Ça peut être le bulletin scolaire. Tout ça, c'est des messages évaluatifs, ou ça peut être certains des messages évaluatifs qu'on a vus tout à l'heure. Je suis très déçu, vous n'avez eu que 19 sur 20. Mais il y a un message à transmettre. Et la nature de ce message est hautement importante. Donc, quand on voit peut mieux faire, il faut s'interroger sur le message qu'on... Alors, plus personne écrit ça, peut mieux faire. Non, mais c'était comme ça, un truc en l'air. Hein, mais plus personne ne dit ça. Et dans ce cas-là, je fais avec, enfin par rapport au destinataire du message, j'accomplis évidemment un acte communicatif. Il nous manque une relation à faire apparaître, c'est celle qui existe entre l'acte interprétatif et l'acte communicatif. Ben, c'est tout simplement une relation de sens. C'est une relation sémiotique au sens concret du terme. Et donc, on a donc, l'évaluation se joue autour de ces deux relations, verticales et horizontales, qui sont le contrat qui lie l'évalué à l'évaluateur et l'évaluateur à l'évalué, don contre don, c'est pas dans un seul sens, c'est réciproque, et le sens qui doit accorder un acte interprétatif à un acte communicatif, et c'est complètement... la définition du signe linguistique. Donc on est dans le sémiotique. Il y a d'autres relations à faire apparaître. C'est celle-ci. Vous aurez ce petit schéma. Vous l'aurez. Et je suis très conscient que je vous assène ça, mais c'est pas là que je vous demande de le comprendre. Je vous le dis parce qu'il faut l'expliciter. Et il faut que vous voyez comment il se construit. Mais ensuite, vous allez avoir le schéma, et ce schéma, ça va être une carte. Considérez que c'est une carte routière, ou une carte des mers, comme on veut. Il y a un nord, un sud, un est, un ouest, un sud-ouest, un sud-est, un nord-est, etc. On va retrouver nos positions principales. Et ce schéma, il va nous servir pendant tout le stage, pendant toute la formation, pour voir où on est. À quel endroit on est dans cet atelier, dans cette plage de travail, et comment ça fonctionne quand on met en relation tel élément avec tel élément. Donc, c'est en l'utilisant que vous allez le comprendre. C'est pas avec ce que je vous dis, mais en même temps, symboliquement, il faut que je vous le dise. Parce que sinon, je vous donne un machin comme ça, Et puis, vous ne voyez pas d'où ça sort. Donc, je suis très conscient que, et moi-même d'ailleurs, je ne suis pas sûr de le comprendre, hein, en tout cas, dans ce qui va se passer dans cette formation, il y a plein d'éléments d'interprétation du schéma qui vont apparaître. Il n'est pas, voilà, il n'est pas fini, il n'est pas figé. Je termine avec ces deux relations. Entre la performance et le verdict, il y a un point commun, c'est que les deux sont publics. Le verdict, par définition, il est public. La performance, par définition, elle est publique puisqu'elle est communicable. Alors qu'entre le jugement et le processus, eh ben, le processus, je n'y ai pas accès, moi, comme évaluateur, et je ne suis pas sûr, enfin, je suis même sûr que l'évalué lui-même n'y a que très peu accès, il ne sait pas ce qui se passe dans ses boîtes crâniennes. C'est donc du domaine du privé. Quant au jugement, on peut estimer souhaitable que l'évaluateur sache ce qui se passe dans sa boîte crânienne. Ça serait pas mal, plus ou moins quand même, qu'il le sache. Mais c'est caché aux yeux de l'évalué. Il n'est pas là quand l'évaluateur corrige la copie. Il n'est pas derrière son épaule. Il ne peut pas le savoir. Donc, c'est du domaine du privé.